وفيمينا. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
Au Nigeria, la police de Lagos a secouru 19 filles et jeunes femmes enceintes âgées de 15 à 28 ans dans une usine à bébés destinée à être vendue. Certaines pensaient venir à Lagos pour trouver un emploi et se sont retrouvées piégées, a précisé le porte-parole de la police de l'État de Lagos, Bala Elkana. L'opération du 19 septembre concernait trois maisons et un hôtel à Ishiri Osun, en périphérie de la capitale économique. Deux suspects ont été arrêtés tandis qu'un troisième a pris la fuite. Les bébés filles étaient vendues 820 dollars et les garçons près de 1400 dollars. Les personnes qui achètent ces bébés sont généralement des couples issus de milieux aisés. Au Nigeria, toujours plus de 190 garçons, dont des mineurs, victimes de tortures et de viols dans une école coranique de Rigaza à Kaduna, ont été secourus par la police le 26 septembre dernier. La plupart étaient enfermés et enchaînés, vivant dans des conditions inhumaines et dégradantes, sous couvert de leur apprendre le Coran et de les redresser, indiquait le porte-parole de la police de l'État de Kaduna, Yakubu Sabo. Le propriétaire de l'établissement et ses six assistants ont été arrêtés. Le raid policier a été lancé suite à des plaintes répétées de voisins qui se doutaient de quelque chose d'anormal. Une circulaire obligeant les écolières à se couvrir d'un voile dans deux villes pakistanaises a été retirée le 24 septembre. La veille, des responsables éducatifs des districts de Peshawar et de Haripur avaient sommé les filles des écoles publiques de porter le voile, l'abaya ou le tchador. Mais la directive avait été vivement critiquée sur les réseaux sociaux, de nombreuses voix dénonçant une nouvelle entrave aux droits des femmes. La circulaire a ainsi été retirée. Sirajuddin Khan, un parlementaire régional, avertit que son parti radical, le Jamaat Islami, allait forcer le gouvernement à faire respecter cet ordre dans toute la province. Au Pakistan également, à Multan, le frère d'une starlette des réseaux sociaux assassinée en 2016, qui avait fièrement reconnu l'avoir tuée, a été condamné à la prison à perpétuité. Tuée par Muhammad Wasim, la victime Kandil Balok était surnommée la Kim Kardashian pakistanaise. Son assassinat avait provoqué une onde de choc dans ce pays où des centaines de femmes sont tuées chaque année par des proches. Trois mois après les faits, le Parlement avait adopté à l'unanimité une loi contre le fléau des crimes d'honneur. « Je n'éprouve aucun état d'âme pour ce que j'ai fait », avait déclaré Mohamed Wasim lors d'une conférence de presse de la police. Depuis la nouvelle loi, le meurtrier ne peut plus bénéficier du pardon des parents de la victime. La journaliste marocaine Hajar Raissouni a été condamnée le 1er octobre à un an de prison ferme pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage par le tribunal de Rabat. Son fiancé a écopé d'un an ferme également et son gynécologue de 2 ans. Fin août, la reporter avait été soumise à un examen médical sans son accord, qui avait duré 20 minutes sans anesthésie. Ses avocats avaient assimilé cet examen de la torture, pointant des manquements de la police judiciaire. Le code pénal marocain sanctionne les relations sexuelles hors mariage et l'avortement quand la vie de la mère n'est pas en danger. Lors d'une précédente audience, Mme Raisouni a assuré avoir été traitée pour une hémorragie interne, ce que son gynécologue a confirmé au tribunal. La journaliste dit avoir été interrogée par la police sur ses proches, son journal et ses écrits.
Parole de femme.
Adjoavi Sika Kabore, première dame du Burkina Faso, s'investit depuis quelques années sur la santé, la reproduction et l'autonomisation des femmes et avait une fondation avant que son époux devienne président. Depuis l'accession à la magistrature suprême de Roch Marc Christian Kabore, elle s'engage notamment dans la lutte contre les violences faites aux femmes et filles, dont les MGF et les mariages forcés. Madame Kabore a participé à un événement sur ces questions en marge de la 74e Assemblée générale de l'ONU à New York. Cheikh Thiro lui a tendu le micro.
On se rend compte que, à cause des mariages d'enfants, les filles ne peuvent pas aller très loin dans les cursus scolaires. Très souvent, elles font le primaire et elles s'arrêtent là. Et elles sont mariées. Une fois mariées, elles subissent toute forme de violence. Déjà même la petite fille qui réalise qu'elle est en train de perdre son enfance, vous savez, elle est plongée dans un profond dépit qui amène parfois même au suicide. Il y a récemment une fillette de 11 ans qui a été mariée à un homme qui devait avoir l'âge de son grand-père, s'est pendue. Enfin, dans nos pays, on essaie de lutter contre la démographie galopante. Vous imaginez une fillette de 13 ans qui est mariée, qui va faire des enfants peut-être tous les 3 ans, jusqu'à l'âge de la ménopause. Comptez le nombre d'enfants que ça fait. Donc, c'est autant de filles qui auraient pu rester à l'école et devenir aujourd'hui des ingénieurs, devenir du personnel de santé, ministres. Pourquoi pas chef d'État? Et c'est autant de pertes pour le continent africain. Il est très important que ces filles puissent être maintenues à l'école. Que dans nos pays, qu'on mette en place tout un dispositif pour leur permettre de rester à l'école, de pouvoir poursuivre leurs études, quand bien même il faut quitter le village pour aller vers la ville. Donc en mettant à leur disposition des internats, des maisons où elles peuvent être accueillies, sans que les parents ne craignent un risque de grossesse. À côté de ce dispositif, pouvoir les maintenir à l'école, je parlais donc de volonté politique et de dispositif juridique, il faut que des tests soient pris. Il faut que la volonté politique s'exprime par des dispositions qui permettent de punir les auteurs d'excision, les auteurs de mariage d'enfants. Et quand on parle de mariage, c'est pas uniquement le mariage à l'état civil, il y a également le mariage coutumier, le mariage traditionnel, autant d'unions au sein desquels on voit des parents donner leurs enfants, leurs fillettes en mariage. Donc il faut pouvoir réglementer l'âge du mariage et mettre en place des dispositions pénales pour pouvoir punir. Nous pensons que ce faisant, on arrive à changer, à construire une nouvelle norme sociale qui sera celle d'attendre que la fillette ait 18 ans avant de la marier. Donc il faut pouvoir mettre ces tests en place et amener les législateurs à les appliquer effectivement.
Adjoavi Sika Kabore, première dame du Burkina Faso lors de la 74e Assemblée générale de l'ONU à New York. À l'Assemblée générale de l'ONU, plusieurs conférences et ateliers ont été organisés sur les droits des jeunes et des femmes. Cheikh Thiro a également tendu le micro à l'envoyé spécial pour la jeunesse de l'Union africaine, Aya Chebi.
Je crois que l'éducation, premièrement, c'est très important, mais plusieurs autres sujets comme la santé, comme empowerment, mais on doit avoir ces sujets dans un écosystème pour le renforcement des capacités des femmes. Donc pour moi, si on parle de la violence contre les femmes, c'est-à-dire on parle de, par exemple, la femme qui n'est pas à l'école, la femme qui n'a pas vraiment l'indépendance économique pour avoir un job. On parle de la femme qui n'a pas accès au système de santé. Et donc pour moi, c'est un écosystème. Si on veut vraiment que les femmes contribuent contribue à notre société, on doit regarder tout l'écosystème de empowerment. Et donc pour moi, mon message vraiment, c'est de donner la chance à la femme d'être égale dans la société et de contribuer dans la société. Parce que c'est la moitié de notre société. Et si on paralyse notre moitié, c'est-à-dire on peut pas fonctionner. Et c'est ça, on est en train de ne pas fonctionner dans notre société maintenant. Parce que toutes les décisions qu'on est en train de faire ne sont pas en train de marcher. Les femmes sont exclues. Et donc, on doit continuer à faire le plaidoyer pour la participation de la femme, pour l'égalité des genres. C'est un sujet qui doit impliquer les hommes. On a besoin des hommes qui sont féministes et qui luttent aussi pour la cause des femmes.
C'était Aya Chebbi, l'envoyée spéciale pour la jeunesse de l'Union africaine, en marge de la 74e Assemblée générale de l'ONU à New York. Un instant avant le monde, la première biennale d'art contemporain de Rabat est marquée par la représentation d'œuvres réalisées par des femmes. Elles sont 63 peintres, cinéastes, vidéastes, chorégraphes, performeuses et architectes et autres artistes à exposer ou effectuer des performances dans une dizaine de lieux de la capitale marocaine. Il s'agit de faire œuvre de réparation en marquant la présence des femmes dans l'art, selon le commissaire de la Biennale, Abdelkader Damani. Dans ce reportage télé relaté par Arzouma Compaoré, il s'exprime avant les cinéastes tunisiennes et franco-algériennes, Eger Scharf et Katia Kameli.
Le jardin du musée du roi Mohamed VI a accueilli la toute première édition de la Biennale de l'art contemporain de Rabat. Et pour cette première, les femmes artistes étaient à l'honneur.
Il y a à revoir un petit peu notre rapport à l'équilibre et à l'équité dans l'histoire de l'art. Tout simplement, l'histoire de l'art est une histoire pour l'essentiel masculine. C'est ce qu'on lit dans les livres, c'est ce que nous regardons. Et donc, il y a une tentative par la Biennale de Rabat de réparer cette chose-là dans l'histoire.
Pour les organisateurs, il était tout aussi important que le public puisse voir la diversité de l'art contemporain.
Moi, je suis cinéaste, oui, c'est vrai, je fais des films d'art et des films expérimentaux, mais il y a quand même d'autres formes d'art qui sont ici à la Biennale et qui sont exposées. Et c'est ça, je pense, l'originalité aussi de la Biennale.
Il y a aussi de la performance, il y a aussi de la danse, il y a aussi du cinéma. Donc, il est important, en fait, que dans une Biennale, on imagine... Beaucoup de choses sont art. Et c'est un peu ça la question. Qu'est-ce qui est art, qu'est-ce qui n'est pas art? Beaucoup de choses, beaucoup de formes sont art. Et ce qui est intéressant, c'est le tissage et le métissage qu'on va retrouver dans la Biennale à travers toutes ces formes artistiques.
Cette première Biennale d'art est accueillie dans plusieurs espaces de la capitale marocaine jusqu'au 18 décembre 2019.
Un reportage vidéo sur la première Biennale d'art contemporain de Rabat que vous pouvez voir sur voaafrique.com.
Si jeunesse pouvait.
Au Togo, un groupe d'enfants a été sensibilisé sur la pollution du plastique et la nécessité d'avoir recours au recyclage pour protéger l'environnement. C'était dans le cadre de la première édition Colonie Verte qui s'est tenue à Lomé, une manière d'occuper les jeunes et de leur inculquer les valeurs qu'ils peuvent partager avec leurs camarades. Revenons sur cette formation à travers un reportage de Kay Lawson.
La pollution du plastique, les menaces sur l'environnement et le recyclage, ce sont là les sujets abordés lors de la première édition de la Colonie Verte. Une journée d'échange au cours de laquelle les enfants ont pu retenir l'essentiel.
On a appris que chaque année, il y a 8 millions de tonnes de plastique qui tombent dans la mer et que ça pollue la nature et que des scientifiques ont estimé que d'ici 2050, il y aura plus de déchets dans la mer que de poissons.
On a appris qu'il ne faut pas jeter les plastiques dans la nature. Je vais faire une campagne pour dire à tout le monde de ne pas jeter les ordures par terre. Et puis, avec le scout à l'école, on va faire des poubelles pour mettre dans la rue.
Âgés de 4 à 12 ans, les participants à cette colonie verte constituent une cible privilégiée pour une meilleure protection de l'environnement. Christelle Selom, initiatrice de la colonie verte.
On a voulu faire une classe verte parce qu'on s'est dit qu'il fallait associer les enfants à l'écologie. Donc on voulait vraiment aller vers ces enfants pour leur dire, tous les sachets que vous avez dans votre environnement, ne les jetez plus dans la rue, essayez de les jeter à la poubelle, essayez d'en parler autour de vous, à l'école, à vos parents, pour sensibiliser toute la société togolaise. Et de plus, ce sont les adultes de demain. Donc c'est important de les former dès tout petit à l'écologie et les sensibiliser aux méfaits et aux dangers du plastique.
C'est le but recherché également par Aristide Messon, dont les enfants ont participé à cette colonie verte.
Faire l'éducation depuis la base, c'est très important, et ce qui va nous permettre surtout de faire tout changer. C'est une opportunité pour les enfants de participer à quelque chose qui va édifier leur conscience.
Isis Noryaladi, qui a entretenu les enfants sur la pollution du plastique et le recyclage, estime qu'il est temps que l'écologie rentre dans les mœurs africaines.
Il est important aujourd'hui que, à l'école, on commence à parler du plastique aux enfants. On va parler de la déforestation, on va parler d'une agriculture saine. Tout ça, c'est de l'écologie. Et il est important que nos enfants, qui vont porter l'humanité de demain, que cette éducation rentre dans leurs mœurs, comme apprendre, lire et compter.
Au cours de cette colonie verte, les enfants ont pu produire de différents objets, à partir de bouteilles et couverts en plastique. Kailasson, Lomé, VOA Afrique.
Mais oui, et si la jeunesse pouvait?
Un réseau de trafiquants d'ovaires et de nourrissons de femmes venus de Bulgarie a été démantelé à Thessalonique en Grèce. Les femmes étaient emmenées dans des cliniques privées pour accoucher ou se faire prélever ses organes reproducteurs. Les enquêteurs ont dénombré 22 cas d'adoption illégale et 24 cas de vente d'ovaires pour un montant supérieur à 500 000 euros. 12 personnes ont été arrêtées, parmi lesquelles un médecin, un avocat et 2 employés de cliniques privées. 66 autres personnes pourraient être impliquées dans ce réseau, soupçonnées aussi de blanchiment d'argent.
Entre parenthèses.
Au Tchad, des odeurs nauséabondes d'ordures ménagères déposées aux alentours des institutions de l'enseignement supérieur ont provoqué colère et indignation des étudiants. Voici un reportage de notre correspondant N'Djamena, André Kodmadjingar.
Situé dans la commune du 3e arrondissement de la ville de N'Djamena, Ardeb Djumbal, un vieux quartier de Fort-Lamy devenu N'Djamena, capitale du Tchad en 1972, baigne dans l'insalubrité la plus totale. Et pourtant, ce quartier abrite plusieurs institutions de l'enseignement supérieur, un centre d'études et de formation pour le développement, un marché et un centre de santé, entre autres. Des correspondances ont été initiées par ces étudiants demandant à la commune du 3e arrondissement d'enlever ces ordures, mais sans succès. Face à l'inaction des autorités communales, les étudiants de l'Université de N'Djamena et les élèves de l'école normale supérieure ont ramassé ces ordures pour les brûler sur les voies publiques. Une protestation qui a finalement payé. Les autorités de la mairie centrale elles-mêmes ont mobilisé les ressources humaines et matérielles pour enlever ces ordures afin de calmer les étudiants.
Nous sommes donné les moyens de dégager ces ordures, aller déposer sur le goudron pour prouver la mauvaise foi du gouvernement, puisqu'ils disent qu'ils n'ont pas vu ce qui se passe. C'est pourquoi nous on a décidé de montrer que voilà, les ordures là sont là et pouvez voir sur le goudron, puisqu'ils ne passent pas dans nos couloirs pour voir.
Voilà, ça pue. Dans les salles, on reçoit des odeurs nauséabondes, des odeurs qui ne permettent pas aux enseignants d'abord d'accéder aux salles pour dispenser le cours.
Vraiment, on a été exposé à de diverses maladies. On était vraiment mal à l'aise.
Pour le directeur en charge de l'assainissement de la mairie centrale, Gatinga Roasna Roudric, la responsabilité est partagée. Car, dit-il, ce n'est pas pour la première fois que l'enlèvement d'ordures ont lieu dans cette commune.
Cela est dû, d'une part, de l'incivisme de la population, mais cela est dû également à la responsabilité de la commune du 3e arrondissement qui ne veut pas pour que les gens déposent des ordures n'importe où. Les communes d'arrondissement qui sont chargées de collecter ces ordures dans les ménages, peut-être ne font pas bien leur travail. C'est pour ça que les gens sont obligés de se débarrasser donc de ces ordures-là pour les mettre là où nous sommes.
Accusation que rejette le maire adjoint de la commune du 3e arrondissement, Babi Kirkoulamala.
Ça fait 7 ans que la commune du 3e est là. Elle ne va pas être jugée par rapport à cette activité-là. Mais que chacun, quand on a des prérogatives, il faudrait qu'on puisse les exercer. Si moi, en tant que maire, je ne peux pas faire le boulot qui est le mien, ce n'est pas normal. Je réponds à votre question, on a été informé, mais on n'a pas répondu aux doléances des étudiants. Maintenant, est-ce que la commune du 3e a les moyens de faire ce travail-là? Je vous dis non.
Pendant que les autorités de N'Djamena veulent faire de cette ville la vitrine de l'Afrique, certaines populations continuent de polluer les rues, rendant ce rêve difficile. André Kodumadingar, N'Djamena, VO Afrique.
En Ouganda, la jeune environnementaliste Fessa Weko, qui se définit comme une récupératrice de déchets, transforme avec un groupe de femmes des sacs plastiques en sacs à dos pour un usage quotidien. Lionel Gaïma nous en dit plus.
Faith Aweko n'a aucun problème à ramasser les ordures. Elle était obligée de le faire tout le temps lorsqu'elle était inondée par l'eau de pluie et les ordures de sa maison, située dans un bidonville près de Kampala. Aujourd'hui, elle travaille avec des femmes pour collecter des sacs en plastique dans le district de Mpigi, dans le sud de l'Ouganda. Ces sacs sont ensuite transformés en des sacs à dos résistants, imperméables et magnifiques. Aweko et ses collègues du projet Reform Africa voulaient faire quelque chose avec les milliers de sacs en plastique dans les rues de plusieurs villes ougandaises. Faith Aweko, fondatrice du projet Reform Africa.
Elles ramassent les bouteilles en plastique, mais aussi les sacs de polythène qui sont les plus dangereux pour l'environnement. Et vous les trouverez partout. Certains les brûlent, d'autres les jettent dans leur jardin, ce qui n'aide pas non plus pour avoir une bonne production agricole.
En Ouganda, le sac de polythène le plus populaire est celui de 30 microns. De recherches ont montré qu'il faudra 1000 ans pour qu'un sac se décompose. Aweko a eu l'idée de compresser ces sacs ramassés à l'aide d'un fer à repasser, puis coudre les tissus pour fabriquer un sac à dos. Naluyima Shamim, cofondatrice du projet Reform Africa.
Nous les repassons. Nous compressons 15 sacs en plastique pour en faire un solide sac à dos. Nous avons des modèles et nos clients veulent avoir des marques dessus.
Rachel Mema, une réfugiée venue de la République démocratique du Congo, travaille avec le projet Reform Africa. Elle vivait dans un camp de réfugiés où il y avait beaucoup de déchets plastiques qui servaient de nid aux moustiques qui propageaient des maladies.
Ces solutions ne concernent pas seulement les citadins, mais aussi les personnes qui ont vraiment besoin d'avoir quelque chose qui respecte l'environnement. C'est pour protéger notre santé, car nous souffrons tous avec le plastique.
Alors que les dirigeants du monde sont réunis à New York pour parler du changement climatique, Shamim et les membres du projet leur demandent de ne pas regarder ce seulement les revenus générés par les sacs en plastique, mais d'être plus conscient de l'urgence climatique et d'agir dès maintenant.
Chères auditrices, chers auditeurs, le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel, juste après les nouvelles. Sur notre site internet, visitez aussi voafrique.com/LMF pour consulter nos articles, vidéos, interviews et les autres éditions déjà parues. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête!